es ternura y coraje, como si yo tuviera enferma la razón.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, nous sommes le premier jeudi du mois, c'est Pédérama, comme chaque mois, il est 19h30, un peu passé, et nous allons passer une heure d'émission avec notre marraine radiophonique. C'est à cause d'elle, depuis qu'on est toute petite, qu'on veut faire de la radio et causer dans le micro. Nous avons autour de la table avec nous Hélène Azéra.
Bonjour. Bonjour.
Marraine laïque et athée, bien sûr.
Oui, quand même, cette circonstance, faut pas déconner.
Et Trans et Anna, rencontrez. Quel est le si je vous dis Goldman, quel prénom vous me dites? Bon, c'était Emma, vous avez perdu, on continue.
Je m'entends plus dans mon casque, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est le jeu du quiz. Alors, on va passer une heure de discussion à s'instruire.
Du quiz Anna.
À s'instruire et à apprendre plein de trucs sur les gens que Hélène a rencontrés dans sa vie et qu'elle a aimés principalement.
Et qui ne sont plus là.
Et pour dont beaucoup ne sont plus là.
Ouais.
On parlera moins des cons et des gens que t'as pas aimés.
Non, on va pas s'attarder,
c'est pas la peine. Il y a tellement de trucs intéressants à dire sur ceux qui étaient bien qu'on va plutôt se concentrer sur
eux. Tu sais, le grand problème des journalistes, c'est que tout le temps que tu passes à dire du mal des mauvais, tu parles pas des bons.
Oui, et c'est quand même ça qui compte. Ce soir à la technique, on a Mr. Tits et normalement Ursula Choukroun from Las Vegas qui devrait nous rejoindre quand elle aura retrouvé le chemin du studio. Alors, nous allons commencer peut-être par remonter à une époque pas si lointaine que ça, mais nous, on était vraiment très très jeunes, au journal Libération, et d'évoquer Michel Cressol, avant Libération.
Alors, moi,
Michel Cressol.
Alors, je te propose un petit chemin de croix.
Avec des cailloux.
Athée, laïque et anarchiste, bien sûr.
Alors, première station.
Qui est une suite d'épitaphes que j'ai écrites. Les épitaphes, c'est les petits machins que tu mettais sur la tombe des gens. Et j'ai perdu pas mal de copains. J'ai commencé à leur écrire des épitaphes. Alors, Michel Cressol, je lui ai écrit: dans cette tombe de village, dort comme dorment les sages celui qui tant se brigue à folle, l'adorable Michel Cressol.
C'est joli.
Ça remplace je ne sais pas faire la tapisserie, alors je fais des...
Oui, puis c'est un peu long.
Michel, je l'ai connu au Phare, donc le groupe, moi je dis un groupe héros libertaire, parce qu'il y avait quand même un grand fond libertaire dans le Phare. Il y avait Daniel Guérin qui était là. Ça te dit quelque chose, Daniel Guérin?
Oui, de nom.
Tu as lu son autobiographie?
Pas du tout.
Eh bien, tu devrais, voilà.
C'est toujours...
au lieu de lire des journaux cochons.
Mais je n'en lis pas non plus, c'est pas parce qu'on a Pédérama qu'on est idiote et qu'on
alors,
regarde que de la pornographie.
Alors tu vas lire des journaux cochons et les mémoires de Daniel Guérin, où tu vas comprendre l'articulation entre un combat homo et un combat libertaire.
D'accord.
Voilà. Et un combat anticolonialiste, parce que on peut tout dire de Daniel Guérin, mais sur l'anticolonialisme, il a été extrêmement virulent et efficace.
Alors, en quelle année quand même? Parce que pour toutes les petites jeunes qui nous écoutent...
On est vers 72.
Le Phare, c'est début 70, c'est
ouais,
ça?
Non, 72.
72.
C'est 72. Je vais pas te faire l'histoire du Phare. Enfin, l'histoire, c'est classique. C'est des femmes qui ont fondé le truc, puis les mecs sont arrivés, puis ils ont fini par foutre les femmes dehors. Voilà.
Oui, c'est plus normal.
Pour résumer, je schématise un peu, mais il y a un peu de ça quand même. Donc, je vais au Phare et il y avait un garçon superbe avec des grands, grands cheveux châtains. Moi, j'ai toujours eu des flashs Laurine Bacall sur lui. Il avait toujours la mèche sur l'œil. Des poches. Il avait des poches sous les yeux, ce que je trouvais terriblement chic.
Il avait quel âge quand tu l'as rencontré, à peu près?
Oh, il doit avoir 20. Moi, j'avais...
C'est un jeune homme.
J'avais 20 ans, 19, 20 ans.
Le bel âge.
Il avait 25. Il était en train de faire ses études. Il était en train de devenir le grand ami de Guy Hockenheim. Et ils ont eu une... Alors, c'est intéressant, comme chez les PD, tu as les amis amants et les amis pas amants. Et des fois, c'est les amis pas amants qui durent plus longtemps que les amis amants. Et des fois, c'est les deux, tant mieux. Mais il a été l'ami pas amant de
Hockenheim.
Par contre, ils échangeaient des amants entre eux.
Oui.
des petites histoires intéressantes. Et Michel avait un petit appartement que ses parents avaient mis à sa disposition, juste en face du resto universitaire, qui est devenu un espèce de repère absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on se levait à midi, on ouvrait les fenêtres, et en face, il y avait les gens du resto universitaire qui regardaient halluciner toutes sortes de créatures passer. Et alors,
il faisait quoi au phare? Enfin, il est arrivé là-dedans comment?
Il était vaguement dans les machins Guattari. Alors, Cresson, il avait commencé trotskiste, je crois, à Clermont-Ferrand. Alors, je m'imagine en trotskiste. Il avait gardé un côté un peu austère, comme ça. Et puis, il est parti de son groupe de trotskiste parce qu'il y a eu une histoire où il y avait un ouvrier qui devait dormir chez lui et quelqu'un a dit, en réunion, et si Michel lui fait des avances? Et l'ouvrier a dit, je lui casserai la gueule. Mmh. Et personne n'a réagi. Et
il a quitté.
Michel a pris ses clics et ses claques. Et il leur a dit que la révolution trotskiste pourrait se passer de lui. ben voilà. Il était, moi j'avais ma petite bande de folles hurlantes nihilistes. Et lui, il était lié à aucun game, et donc il faisait une espèce de navette entre les deux. Quand même, aucun game était déjà à l'université. Mmh. Bon, Michel a écrit un livre sur Deleuze. Il était quand même un petit peu dans. Et lui, alors par la suite, se revendiquait folle. Donc il a écrit il a tenu cette rubrique à l'autre journal qui s'appelait Une folle à sa fenêtre. Et tu vois, c'est à l'autre journal, il avait proposé une chronique, il disait, quel titre vous mettrez? Michel dit, je crois que je vais appeler ça Une folle à sa fenêtre. Oh, ils ont fait gloupe.
Il a fait ça longtemps?
Oui, il a fait longtemps. Cardon l'avait réédité chez Gekitsch Camp, chez la maison d'édition, puis il l'a encore réédité en mettant une préface un peu sur la déstructuration du genre structuré qui queerisait la restructuration
postmoderne,
voilà. Il n'y a même pas la date de naissance et de mort de Michel, que je ne peux pas te citer tout de suite.
C'est des ouvrages qu'on peut toujours trouver, ça,
oui,
sur Internet,
dans
les brocantes en ligne.
Donc, aucun game. Julie a fait venir aucun game à Libération pour tenir la rubrique télé. Mm-hmm. Aucun game a fait venir Cressol. Cressol m'a fait venir. Et là, il m'a vraiment sauvé la vie, tu vois. D'abord, j'ai pu bouffer. Mm-hmm. Moi, je sortais du tapin, j'en avais marre. Mais je ne pouvais plus les voir en peinture, j'ai envie de vomir dessus ou les mordre
quand
je les voyais. Et bon, il valait mieux éviter parce que avoir des suites judiciaires. Et puis bon, le premier article que j'ai fait, il faisait 12 lignes. Et puis voilà, petit à petit. Et
t'avais quel âge à peu près? T'étais encore en 25-30 ans.
La 72, ça doit être. On est en 78.
D'accord.
On est en 78, là, tu vois. Donc, là, j'ai 25 ans, mm-hmm. 26 ans. J'en ai marre de Pigalle, Dubois. J'ai envie de faire autre chose. Je sais que je suis capable de faire autre chose. Et puis, bon, il m'a donné... J'ai découvert le métier de journaliste, qui n'est jamais facile, qui n'est jamais facile dans un journal qui a été fondé par des maoïstes. Quand même, les maoïstes, c'est l'horreur incarnée sur Terre. Mais bon, j'ai beaucoup.
T'as appris avec lui, en fait.
Oui, j'ai appris avec Cressol, qui lui, alors, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, mais il avait quand même bénéficié des leçons de Barthes. Mm-hmm. Il avait rencontré Barthes dans un sauna.
À Paris,
où pendant que les gens s'enfilaient dans tous les coins, il était resté avec Barthes pour regarder un show télé avec Amanda Lear et Patrick Juvet. Et ils étaient devenus un peu amis, se fréquentaient. Et Barthes lui avait dit, vous ne finissez jamais vos phrases. Et ça l'avait beaucoup aidé. Le truc, Michel, il aimait bien se travestir. Il avait commencé les épilations du visage, puis il y a eu une catastrophe, il a eu le visage abîmé. Ah. Et puis, il m'avait parlé, il s'était aperçu, en fait, que quand il était habillé en femme, il n'aimait pas baiser avec des mecs. Il n'aimait pas avec des mecs qui le désiraient habillé en femme. Il voulait que les mecs le désirent en tant qu'homme. Et ça nous avait permis un petit peu de faire les gradations.
T'avais un curseur.
Oui, de voir où chacun en était. Alors, au phare, bon, quand j'ai commencé à faire des hormones, il y a quand même Françoise Daubonne qui m'a dit « Tu vas attraper le cancer des seins. » Il y a des gens qui m'ont carrément fermé la porte. Michel, au contraire, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il vivait à travers moi quelque chose.
Oui, c'était une transition par procuration.
Oui, c'est quelque chose qu'il aurait aimé vivre, mais pas complètement.
Mais c'était
donc
pas
ça,
pour lui, quand même.
Ça l'arrangeait bien. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il était très, 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 très cultivé. Et puis, il avait un truc rigolo, c'était de... Il passait vraiment du balayeur à la duchesse. Il fréquentait... Il faisait pas les mêmes choses.
Dans sa fréquentation, oui, c'est ce que j'allais dire. Il les choisissait pour quel type de...
Mais il les présentait. Il présentait ses amants sénégalais, il les présentait à ses amis duchesses. C'est une chose que j'aimais beaucoup chez lui. Puis un éclectisme de curiosité. Je sais pas, il avait des bouquins sur les cow-boys noirs américains, par exemple. Enfin, c'est quand même assez pointu comme recherche. Et puis bon, notre amitié, c'est un truc formidable, c'est échanger des livres avec tes amis. C'est le truc qui me manque le plus. On avait vraiment tout un circuit de bouquins qu'on s'échangeait.
Les trucs à se refiler, parce que vous avez bossé ensemble pendant combien de temps?
Bah, 20 ans. Moi, la situation est devenue intenable à Libé quand il est parti, parce que c'était mon protecteur. Mmh. Il avait un truc, il est terrorisé.
Dans la rédaction.
Un petit peu. Bah, il parlait de lui au féminin. Mmh. Il était capable, dans un comité de rédaction, de commencer à parler de lui au féminin. On m'a raconté une histoire avec Serge Julie, parce qu'il avait côté arbitre des élégances. Quand même, Michel. Et il y a une histoire, il doit voir Julie. Et puis, Julie s'était fait offrir une montre par je ne sais quelle grande radio ou un truc comme ça. Et un espèce de gros machin. Et il commence le truc, puis Michel regarde la montre, il dit « Mais comment est-ce que tu peux porter une montre aussi vulgaire ?» Michel me dit qu'ensuite, pendant toute la réunion qu'ils avaient ensemble, Julie tirait sur la manche de sa veste pour cacher sa montre.
Et pourquoi il est parti, lui, de Libé?
Ah, lui, il n'est pas parti de... Oh là là, c'est une histoire...
C'est peut-être compliqué.
Non, c'est une histoire horrible. Donc, le sida. Mmh. Il a commencé à aller de plus en plus mal. Et à cette époque, il faisait un guichet. Les gens qui voulaient partir volontairement, on leur donnait de l'argent.
D'accord.
Et il était grabataire chez lui. Et il a essayé de trouver une espèce... Il ne voulait pas partir parce qu'il ne voulait pas parier sur sa mort. Mmh. Mais il voulait quand même négocier quelque chose, étant donné que dans l'état où il était, c'est évident qu'il ne reviendrait jamais au journal. Et le type de la DRH a refusé de le prendre au téléphone. Mm-hmm. Et une fois, ensuite, j'ai dû m'occuper une fois de papiers de sécurité sociale parce que le journal avait mal rempli les papiers et il avait sa sécurité sociale bloquée. Je ne sais pas si tu vois un mec gravataire. Et je coince le mec de la DRH et il me dit « Oh là là, ça doit être terrible, Michel, etc. etc. » Et je lui dis « Mais non, il n'a rien à se reprocher. » Et le monsieur de la DRH, il est devenu un petit peu blême. Son personnel a un peu rigolé. Finalement, je pense que ça s'est arrangé avec les syndicats qu'il puisse avoir quelque chose. Mais tu te rends compte, c'est un garçon qui avait été tellement important dans le journal, comment on le traitait. Je sais pas qu'est-ce que je peux raconter comme... Je vais me raconter des histoires drôles, parce qu'on rigolait. Mmh. Je me rappelle, est-ce que le docteur Amoroso vit encore?
Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut nous appeler.
Donc, il y avait un espèce de docteur homophobe, mais qui était une chose inimaginable, qu'on appelait le docteur Amoroso. Il avait fait une télé avec Jean-Louis Borry, et Jean-Louis Borry s'était tellement moqué de lui, il avait essayé de lui casser la gueule en sortant de l'émission, mais pour dire quel genre de... Et il chantait. Et je me rappelle, Cressol avait fait un papier où il disait « Il chante comme un gros caca coincé dans son rectum ». Il y avait Marcelin, le fameux ministre de la police qui était dans l'émission, et on disait « Oui, Marcelin qui habite seul avec sa mère et son canari Bidule ». Bidule, c'était le nom qu'on donnait aux matraques. on s'est quand même beaucoup amusé avec cette rubrique télé. Et puis, bon, toujours le truc de l'anticolonialisme. C'était un petit peu la nouveauté. C'était un humour folle, articulé sur un esprit un peu corrosif socialement et pas tellement arriviste. Je vais être reçu chez les riches et les puissants.
Il a fréquenté Act Up aussi.
Il a fait engager Didier. Il avait toujours suivi le parcours de Didier Lestrade. Il l'a fait engager à...
Qui est un des cofondateurs d'Act Up pour nos auditeurs.
Voilà, mon transphobe préféré.
Voilà, fidèle ami.
Le transphobe que j'aime.
Notre ami la main verte.
Non, il y en a des pires, hein, il y en a des pires quand même.
Oui, s'il y en a avec des comme lui.
Voilà, mais il ferait mieux de s'occuper de plantes vertes que de parler des trans. Bon. Et voilà, il suivait un petit peu. La dernière grande erreur qu'il a fait, c'est d'avoir fait travailler Éric Rémès. Il a pas compris que c'était de l'esbrouf.
Au journal.
Il écrivait des articles assez, pas très intéressants. Mais bon, il a pas compris que c'était juste un esbroufeur, quoi. Qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de profondeur derrière.
Et donc, du coup, toi, t'es resté au journal après un peu?
Ils m'ont beaucoup fait souffrir.
Ouais.
Et puis, bon, j'ai réussi à partir en faisant un procès. Et à la suite de mon procès, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont été engagés à la suite de mon procès. Donc, c'est assez agréable.
Oui, ça servit.
C'est l'histoire des pigistes dans la... C'est là où j'avais rejoint la CNT. C'était parce que à Libération, il y avait le patron qui était un ancien maoïste qui téléphonait au truc de l'emploi.
Le truc de patron?
Non, le truc de surveillance, justement, à l'inspecteur du travail, qui était un ancien trotskiste. Alors je dis, s'ils s'entendent entre maoïstes et trotskistes, il faut que j'aille voir les anarchistes.
Oui, c'est obligé. Il faut finir le triangle.
Donc, il a laissé plein de trucs, Michel, ses articles. Ça serait bien de publier ses articles. Ou toi, tu as un article sur les homeless à New York, sur les sans-abri à New York. Et le lendemain, il y a un article sur un défilé de mode. Quoi. C'est très, très... Il passe d'un sujet à l'autre. Il y a son livre où il a fait l'Afrique fantôme de Léris et où il a refait le voyage. Sauf qu'au début du voyage, il tombe amoureux d'un garçon dogon du Mali. Et les dogons, c'est les non-musulmans du Mali. Et en fait, dans son voyage, il voit le Mali à travers les yeux d'un non-musulman discriminé par les musulmans. Tu vois, il y a des endroits où Michel peut venir, mais le dogon, il doit rester à l'enceinte du palais. Comme il n'est pas musulman, il peut pas rentrer dans le palais. Enfin, des choses intéressantes.
Est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui compulse un peu, enfin, qui a un peu gardé la trace de...
Oui, enfin, quand même, il est un peu connu. Non, par contre, la chose qui m'a vraiment choqué, c'est que toutes les histoires queer et tout, il a vraiment lancé le truc en France sans parler de... S'il a parlé de la Queer Nation quand même, dans des articles, en faisant l'articulation sur la Zulu Nation, évidemment. Et il y a beaucoup de queers qui savent très bien qu'il a existé, qui savent très bien qu'il a écrit des articles et qui ne le cite pas. Il y a un truc de c'est les émeutes. Il y a une chronique sur les émeutes de Vaud en Velin. Donc il y a son personnage qui est la folle, qui est devant sa télé avec un manche à balai pour changer les chaînes et qui voit les émeutiers. Il y a une description là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, etc. Et c'est sur le thème. Il y a que moi qui peut les comprendre. C'est vraiment... Non, mais c'est quand même toujours l'idée de la revendication homosexuelle ou folle mmh. qui s'articule avec mmh. les autres révoltes. C'est pas le truc... on fait...
C'est pas monothématique,
c'est pas nationaliste.
Oui.
C'est pas nationaliste.
C'est pas mal. C'est un autodidacte, lui.
Oh, il a quand même fait des études. Bah, ouais. Il fait des études de lettres.
Aussi.
Ouais. Ben voilà, il me manque.
C'est... Ah, oui.
Il y a eu un truc assez horrible vers la fin où, tu sais, les gens qui accompagnent les malades et puis ils les accompagnent jusqu'à chez le notaire. Il y a un garçon qui est arrivé, au bout de 9 mois, il était son légataire universel. Enfin bon, il y a des histoires assez... Oui. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est lui qui a tout le fond, qui a toute la correspondance, qui a...
Mais c'est lui qui pourrait faire un petit travail de republication.
Bah, il est quasi analphabète.
Très
c'est
bien.
Un ancien acteur. C'est un ancien acteur. Et quand j'ai fait la nécro de,
on va encore avoir beaucoup.
Quand
d'amis.
J'ai fait la nécro de Cressol, ouais. Il m'a fait une scène parce que j'avais parlé de lui à cette époque. J'avais pas compris quelle personne achetait et j'avais mis un acte pien. Il a voulu que je mette couturier à la place parce que c'était plus intéressant pour sa carrière.
Et parce qu'acte pien, c'était pas honorable.
Non, surtout couturier. Mmh. Il voulait surtout qu'on parle
de sa paire de ciseaux.
Misérable couture.
Très bien.
Il faudrait qu'on fasse une comédie sur toutes les histoires d'héritage, de détournement, de tous ces gens qu'on a vus arriver dans les familles et repartir avec le magot.
Avec le magot et la gazinière.
Ouais, mmh. Et tout en parlant, l'accompagnement, bah, vous comprenez, je les accompagne, ils m'ont beaucoup appris tout le baratin.
On parle de quelqu'un d'autre ?
Alors.
De qui ?
Philippe Houmous. Il aimait la musique arabe, Philippe Houmous dort sous la mousse, Mouras Marlak dort près du lac, le vent qui passe sur sa tombe se fait musique pour son ombre. Alors Philippe, c'est pareil, un ancien du phare, il était père du Béarn, maire du Poitou, donc son nom c'était Mouras Marlak. Mmh. Et Mouras, en fait la racine française de tout Mouras Morin, c'est le mort. Et Marlak, il s'est aperçu qu'il y avait un Djebel Marlak en Algérie, donc il s'était inventé une ascendance maghrébine. Il avait eu une histoire parce qu'à 18 ans, il était tombé amoureux d'un Ashkénaze qu'il avait emmené en Israël. Le mec était fou. Il avait des faux papiers. Il se faisait passer pour médecin. Il rentrait dans les hôpitaux et il vidait l'armoire aux stupéfiants. Moyennant quoi, c'est évidemment le goy qui a trinqué.
Ah, oui,
et
oui.
Philippe a fait un an de prison où il a appris l'hébreu.
Ah.
Et après, il était fou de musique, c'était un mélomane. Il est tombé dingue de Oum Kulsoum et il a voulu apprendre l'arabe pour comprendre mieux. Ouais. Et il s'est appris tout seul l'arabe, avec aussi un petit peu des stages. Et c'est un petit peu Philippe, je l'ai un petit peu aidé, qui a fait ressortir de l'ombre tous les chanteurs séfarades, les chanteurs juifs maghrébins, qui avait été complètement oublié, et on a permis à une très grande dame, Renette Loranaise, qu'on avait enterrée vive dans un pavillon de banlieue du côté des Lilas, on lui a permis de faire des concerts. À la fin du truc, elle était commandeur des arts et lettres. On a fait une vedette pop. Et avec, évidemment, cette idée... bon, on s'est aperçu que dans tout le monde arabe, il y a toujours eu des chanteurs juifs. Mmh. C'était même une des fonctions des juifs dans le monde arabe que d'être les artistes. Alors on se disait, mais pourquoi ils se tapent sur la gueule? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on a fait un beau boulot. C'est surtout lui qui l'a fait. Alors moi, je l'avais connu pareil au phare. C'était un garçon sur le bras. Il avait 5 ou 6 marques de rasoir. Mmh. Il a eu une grosse période suicidaire. Je l'ai connu, mais il était clochard. Mais il était capable de se priver de manger pour aller prendre des places à l'opéra. Tu sais, il y a les places. À l'époque, il y avait les places sans visibilité que tu payais 10 francs ou 20 francs.
Les poulaillers.
Encore, c'était des places derrière les loges où tu ne vois pas la scène.
Ah oui.
Mais tu entends la musique. Et puis, s'il y a une place libre, tu peux t'asseoir. Et il avait commencé à faire ça. Et puis, Bernard Lefort, le directeur de l'opéra, l'avait repéré. Il était assez beau, Philippe. Et il était clochard. Quand il allait à l'opéra, il était dans la loge présidentielle. C'est vraiment des histoires. Et
il est aussi, lui, étonnant. Dans le film qu'on avait vu l'année dernière, La Banque de Sperme.
Non, il n'est pas dans La Banque du Sperme. Non, non. Là,
qui est un film du Phare pour.
Alors, la Banque du Sperme, c'est Philippe Genet.
Ah, c'est quelqu'un d'autre.
Alors, voilà, Philippe, c'est quelqu'un qui a fait un boulot. C'est un pur autodidacte sur la musique séfarade. Parce que ce qui se passait, c'était que les séfarades français, ils n'avaient pas très envie de rappeler que leur grand-mère parlait l'arabe. Mmh. Ils ne trouvaient pas ça très valorisant. Et les musulmans, ils avaient un peu peur de parler des artistes juifs, de peur de se faire mal voir. Et en fait, nous, n'étant ni d'une confession ni de l'autre, on pouvait en parler et du coup, tout le monde était content. au départ, nous, on pensait, surtout avec les musulmans, que ça allait créer des tensions, qu'ils allaient être... Et pas du tout. Ils étaient enchantés qu'on parle de ce pan de leur culture. Tu ne peux pas faire l'histoire de la musique arabe sans les juifs. C'est impossible. Mmh. C'est impossible. C'est comme pour la musique occidentale. Et puis, bon, il était drôle. Alors, moi, je l'ai fait rentrer à Libération sur deux choses. Il était à Poitiers. À Poitiers, il y a une grande autoroute qu'on appelle la pénétrante. Mmh. Il avait fait un gros graffiti à la sortie de l'autoroute. Alors, cette pénétrante, c'était bien... Il m'a raconté ça. Et c'était juste l'époque où Khomeini débarquait à Téhéran, avec notre ami Foucault dans le même avion pour lui cirer les pompes. Et,
passage.
Je vous permettais un passage quand même.
Ah, mais tu as carte blanche.
Voilà. Et Philippe avait fait une série de graffitis dans Poitiers. Khomeini est une fausse blonde. J'ai dit, bon, ça, on te fait rentrer dans
ça
le...
Ça vaut entretien d'embauche.
On te fait rentrer dans le journal, et donc il est mort du sida. C'est un truc qui est dur, c'est d'écrire la nécro d'un ami mort. Mmh. Et en même temps, tu préfères le faire qu'il y ait quelqu'un
qui l'esquinte. Que t'as confié à quelqu'un d'autre.
Ouais. Qu'il y ait quelqu'un qui l'esquinte.
C'est toi qui les as écrites toutes ?
Pas toutes, mais j'ai fait Cressol et je crois que j'ai fait Philippe. Et j'ai demandé aux parents, est-ce que je peux ? La mère m'a dit, écoutez, il faut que je demande à mes fils. Puis elle m'a dit, non, il peut pas. Si vous pensez que c'est utile, mettez-le. Moi, évidemment, c'était utile. Donc, j'ai écrit l'article en disant de quoi il était mort à la fin. Et quand je suis venu à l'héritage, c'était assez touchant. C'était un petit village dans le Poitou. Il y avait tout le village qui a suivi l'enterrement. Et quand je suis arrivé, la mère avait mis dans l'entrée l'article à plat. Et elle m'a dit, vous savez, on a une voisine qu'on aime bien, un peu excentrique. Je ne sais pas comment elle était au courant. Elle nous a appelé à 7h du matin. Quelqu'un lui avait appelé de Paris, avait lu l'article quand le papier était d'abord sorti à Paris. Et la voisine lui a dit, c'est très courageux ce que vous avez fait. Et comme ça, il n'y aura pas de ragots. Et pour moi, c'est vraiment une leçon sur le truc, le dire ou pas. C'est vrai que le dire, il y a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de pipi
ben oui.
Comme ça après. Et là, je fais une petite parenthèse. Je regrette que maintenant, de plus en plus, quand les gens meurent du sida, on ne l'écrit plus.
Personne ne le dit maintenant.
On ne l'écrit plus dans les nécros.
Le dit plus.
On ne l'écrit plus dans les nécros. C'est vraiment redevenu une maladie honteuse. Et ça montre qu'il y a un recul et qu'il faut se battre en avant. Alors, Philippe Genet. Philippe Genet fut grand de gueule, la voici fermée à jamais. Il nous laissa stupides et seuls, mais son exemple, je l'admets. Alors, Genet, c'était... Alors, on dit toujours gasoline, travesti, Genet, je n'ai jamais vu
en
femme. Ouais. Oh, pas de terme de dépréciatif, jeune homme.
Non, pardon.
Mais il aimait bien se mettre en enfant de cœur. Il avait des surplis en dentelle.
C'est pas mal non plus.
Il était très surplis en dentelle sur des bas avec des baskets. Et un truc que j'adorais, au Phare, il hurlait. Il passait son temps à hurler. Enfin, quand moi, je hurlais pas, bien sûr. Et il avait un grand truc. Il disait, mais regardez là, mais c'est une malheureuse.
En parlant de toi?
En parlant de quelqu'un qui parlait, qui disait des trucs qu'il aimait pas. Il disait, mais c'est une pauvre fille, mais c'est une malheureuse. Et je vous rappelle qu'on a fait l'affiche sur le Berbac. tu vois, contre sur les Berbaker, où ils avaient mis c'est des salopes. J'ai dit, ah ben non, moi je suis une salope, etc.
Mais pas eux.
Et du coup, on avait mis c'est des pauvres filles. Et on avait des trucs un petit peu, de temps en temps, on s'était engueulé sur un 1er mai. Il avait fait la quête pour acheter le mégaphone. Et j'ai le souvenir de Genet. Nous venons de vous annoncer le mariage d'Alain Krivine et de Joséphine Beck. Il était un peu comme ça. Ça y allait, hein, ça carburait. Ça, le coup des slogans qu'on a répétés une heure avant dans une pièce et qu'on n'a pas le droit d'en dire un autre, non, là, ça marchait
pas. Ça n'existait pas à l'époque.
Ça n'existait pas. C'est spontané.
C'était pas comme dans les associations militantes de maintenant.
Et il avait son mégaphone, il avait fait la quête pour s'acheter un mégaphone. En fait, c'est lui qui l'avait payé, surtout le mégaphone. Oui. Et il ne voulait pas passer le mégaphone aux filles. Et alors moi je dis, ah mais non c'est pas juste, hein, il faut que tu te passes le mégaphone aux filles, non, 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 c'est pas bien. Et il a pris le mégaphone, il l'a jeté par terre.
Il a cassé le mégaphone.
Et donc on s'est pas parlé, mais pendant 5 ans.
À cause de ça.
Et on s'est réconcilié sur une tombe à l'enterrement de Pierre Chabal. Cinq ans plus tard à un enterrement.
Ah oui, Pierre Chabal, c'était qui?
Alors, Pierre Chabal, c'est le co-réalisateur
de
la Banque du Sperme.
Ah.
Qu'il était beau ce Cévenol, grand brun et bon de corps et d'âme. Le destin par un grand scandale nous a ravis Pierre Chabal. Pierre, c'est... Bon, j'ai couché avec beaucoup de gens au phare, quand même, parce que bon, c'était quand même le but. Mais ça a été... on a eu un vrai amour très, très long. C'est-à-dire que ça a dû durer 15 jours, mais 15 jours, c'était quand même...
De passion.
C'était mille ans, 15 jours. Il était très, très beau. C'est un très beau brun. Il était donc Cévenol, protestant Cévenol. C'est affreux. Il y a eu un enterrement. Et hop, j'ai appris que Pierre était à l'hôpital. J'ai pas pu tout de suite
switcher.
Voilà. Puis bon, je suis allé. Et c'était étonnant parce que lui, il est parti par le cerveau et il avait gardé sa beauté. Il est resté beau. Il avait une beauté à la Gary Grant, comme ça. Et à son enterrement, il y a le frère pasteur qui a débarqué. De Béziers, parce que c'est des Cévenols qui s'étaient installés à Béziers. Moi, je retrouvais l'amant de Pierre que je ne connaissais pas. Il y avait Philippe Genet. Et puis, Pierre, il était révolté. Et autant il était solidaire des persécutions qu'avaient vécu les Cévenols et de la façon dont ils avaient résisté, autant l'éducation biblique et tout ça... Et par paillot, il était taillé comme un rugbyman. Donc, lui, ça allait avec tout. Il y avait l'Occitanie, le protestantisme, tout allait ensemble. Le rugby, avec leur rugby. Et le frère pasteur a commencé à sortir la Bible et à lire des versets. Et moi, par fidélité à la mémoire de Pierre, je me suis retourné. J'ai mis le dos à la tombe. Je vais revenir petit temps avec Philippe Houmous. Une de ses phrases préférées, il était dans un bar, on lui proposait de l'alcool, il disait « La religion de mon mari m'interdit de boire de l'alcool.
» Fidélité à l'amant.
Alors,
on a parlé d'un truc l'autre jour en parlant de boire de l'alcool et de troquet et de resto. On a évoqué du côté de Pigalle, Montmartre, chez Robert.
Ah oui,
qui
alors,
a aussi à voir avec la Banque du Sperme.
Le petit Robert, est-ce que je vais retrouver le petit truc? Oui, le petit Robert dans la Banque du Sperme. Ah, il y a Pierre-Anne, il ne faut pas que j'oublie Pierre-Anne.
Il joue quel rôle dedans?
Il est une espèce de vieille dame avec des serpillères qui nettoie les flaques de foutre par terre. C'est dégueulasse ce film.
Les gens qui n'ont pas vu ce film vont avoir mal. Il faut le voir. Où est-ce qu'on peut le voir?
Bah, nulle part.
Nulle part. Hein.
Il y a la veuve de Genet qui a une ou deux copies. Le problème, c'est que Genet a dit « Madame Télé n'aura jamais mon film ».
Oui.
Ça, c'est vraiment sa,
mais il avait peut-être
sa,
raison.
Sa volonté. Canal Plus en voulait. Moi, je m'étais proposé de faire l'intermédiaire. Il m'a dit jamais ils auront mon film. Dans un petit festival au fin fond d'une campagne, oui.
Comme on a eu l'année dernière aux
voilà,
UH.
Voilà, truc aux UH. Mais jamais dans un truc officiel.
Bon, rares sont ceux qui l'ont vu alors.
Rares sont ceux. C'est un espèce d'Elsa Poppin gay, quoi. C'est, je ne sais pas comment appeler ça, un film comique muet ou ça.
Oh, c'est inqualifiable.
C'est inqualifiable. Il y avait son copain Miguel, qu'on appelait Louise Miguel.
Qui joue dedans aussi.
Surnommé Louise Miguel. Voilà, les anarchistes apprécieront. Et il y a une très belle scène où ils font l'amour. Et moi, ça peut être. Tu vois, la vraie pornographie, la pornographie du cœur. Qu'est-ce que c'est beau. Non, mais qu'est-ce que c'est beau quand on voit des gens qui font l'amour et qui s'aiment. Ça a quelque chose qu'on ne voit pas toujours dans la pornographie marchande.
Jamais.
Et ouais. Pour moi, il copule à jamais, à travers ce film, il copule. Ils n'en finissent pas de copuler. Pierre-Anne, on parle de Pierre-Anne. Mmh. J'en ai fait deux pour Pierre-Anne. Pierre-Anne, si drôle et érudit, tortillait dans les cafés morts quand il soutenait l'Algérie, plein sa mort, mais entend son riz. Et j'en ai fait une autre. Les homos bourges aux bonnes places fuyaient sa rance odeur de tasse. Pierre-Anne, jeune, dansait dans les cafés morts. Je l'en trouve un peu moins mort. Alors Pierre-Anne, c'est vraiment un personnage historique. C'est-à-dire, quand tu écoutes la bande de la fameuse émission de Ménie Grégoire sur l'homosexualité, qui ne s'appelait pas l'homosexualité, c'est douloureux problème, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il y a un truc vers la fin où tout d'un coup, elle parle de la souffrance des homosexuels. Et tout d'un coup, tu entends une voix qui lui dit « Madame, je vous interdis de parler de souffrance. » Et là, t'as toute la salle qui débarque sur la scène et qui commence à foutre tout par terre. Et c'est Pierre-Anne qui a dit « Madame, je vous interdis de parler de souffrance. » Alors moi, en tant que trans, c'est dès que t'as un spécialiste des trans, c'est « Mais nous voulons soigner leur souffrance !» Tu vois, ou... Enfin bon, le marché de la souffrance, on connaît. Je pense tout de suite à Pierre-Anne. Alors, il était assez âgé par rapport à la moyenne d'âge du phare. Il devait avoir 45 ans, mais c'était vieux au phare.
20 ans de plus, quoi.
Il avait été trotskiste. On disait juif, trotskiste, catho, mao.
Mais eux, non, on va tous les avoir. Quel mélange.
Et il avait été dans les réseaux de soutien à l'Algérie. Et il y avait un soutien supplémentaire, c'est qu'il m'a raconté qu'il s'habillait en femme quand il avait 17-18 ans, et il allait dans les cafés arabes et il dansait sur les tables. Donc c'est quand même très joli geste de soutien au peuple qui se bat contre le colonialisme. Voilà, c'est une
mais
chose
à pourquoi
un peu
Crouton
comme ça.
De Pissotière
Pierre-Anne, il est...
Il sentait l'autre
pisse. Il sentait la tasse. Il avait un truc gênant. Tu vois, il y avait toute la bande des petits homos universitaires, Foucault, ses copains, etc.
Et tous les amateurs de yoga anal.
Voilà. L'autre, celui qui avait écrit mon sida, Aaron. Et moi, aucun gars m'a dit que Aaron avait fait des petites intrigues. Alors, Pierre-Anne a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Nos ancêtres, les pervers ». Et Aaron a essayé de squeezer pour que son livre sorte avant celui de Anne. C'était un vrai archiviste. Il avait une bibliothèque absolument incroyable. Alors, il s'est suicidé. Tout le monde s'est dit « Merde, qu'est-ce que va devenir la bibliothèque ?» Et il avait Il était interlope, tu vois. Il zonnait la nuit près des gares, sur les boulevards. Il aimait tout ça. Et il avait un rire absolument extraordinaire. Je peux pas imiter le rire de Pierre-Anne. Il se mettait à rire. C'était vraiment magnifique. Il s'est suicidé. Des amours contrariés. Il fait partie de gens qui ont beaucoup, beaucoup investi dans le phare, qui attendaient beaucoup du phare. Et le phare, à un moment, tout s'est cassé la gueule. Mais ça ne pouvait pas faire autre. Ça pouvait
pas durer.
C'était
pas fait pour durer.
C'était pas fait pour durer. Mais il y a des gens qui... C'était un peu une famille et tout ça. Et le phare, il y a eu un truc, c'est très étrange. C'était tellement fort, les contacts entre les gens du phare. C'est qu'après, les anciens pharus s'évitaient.
Ah oui.
Quand ils se rencontraient, oui. Tellement ça...
L'expérience avait été trop intense.
Tellement l'expérience avait été... Ceux qui n'étaient pas amis... Il s'évitait presque.
C'est-à-dire que même tout cela, c'est des gens que du coup tu n'as pas beaucoup revus après ou...
Alors, Pierre-Anne, c'est très étrange. Et... Bon. Je vais te faire le coup de la tranche, genre ils n'ont pas vu qui j'étais. Mm-hmm. Mais il avait sorti donc ce livre, Nos ancêtres, les pervers. Et j'étais allé lui faire une interview pour Libé. Et au milieu de l'interview, il m'a demandé. En parlant du nom sous lequel j'étais connu au phare, on m'appelait déjà Marlène, donc il faut croire que les gens faisaient une assimilation féminine déjà sur moi. Et me dit ah, que devient la grande Marlène? J'ai dit mais c'est moi. Mais maintenant c'est Hélène.
Ah oui.
Oui.
Bah oui, ça arrive.
Et il y a eu un truc étrange, j'ai pas réussi à faire l'interview.
Ah oui.
C'était au tout début du moment où je travaillais à Libération. Et je n'avais pas encore l'habitude de faire des interviews, de faire des choses comme ça. Je ne savais pas très bien quoi. Je crois que j'ai l'interview quelque part sur les papiers. C'était un vrai érudit, tu sais, c'était les érudits autodidactes, les érudits non universitaires, ceux dont les universitaires aiment bien piller les collections et les mépriser ensuite.
Oh, ils font pas ça.
Dans cette église de Compiègne, le chantre beuglait comme un âne. Pour enterrer Jean-François Briane, nous nous terrions comme des duègnes, heureuses que ce mélomane... Ah ! J'ai perdu le... Ah ! Yabidabada ! Yabidabada ! Yabidabada ! Où s'est passé ? Où est-ce que c'est passé ? Où est-ce que c'est passé ?
Tu fais une pause dans la cérémonie.
Voilà. Eh bien, je sais plus. N'entendit point beugler cet âne. Voilà, je le connais par cœur. Jean-François, pareil, c'est une gazo. On le surnommait Lady Blédine. Il se nourrissait de petits pots de petits pots de pharmacie.
Pour bébé ?
Oui. Bah oui, c'est comme ça.
C'est bon.
Il était passé par les Mao et il avait fait de l'alpinisme. Et c'est lui, par exemple...
Quel rapport.
Non, mais il était dans une brigade alpiniste des Mao.
D'accord.
Notamment, ils avaient mis sur le dôme de l'opéra « Palestine vaincra ». Enfin, ils voulaient mettre « Palestine vaincra », sauf qu'ils sont aperçus quand ils ont terminé « Palestine » qu'il n'y avait plus assez de peinture. Donc, ils ont mis « Palestine VVV ». Et puis, ensuite, il a rejoint, quand il a vu une manie du phare, il a rejoint le truc. Les Mao se sont
horrifiés.
Il m'a raconté des histoires avec des mecs qui lui devaient de l'argent et ne voulaient plus lui rembourser, des trucs comme ça. Puis, il y a eu une manif au Hall où il y a eu l'histoire, les flics avaient ramassé des gauchistes et les avaient mis dans le panier à salade. Et... Philippe Genet, Vanda Colson, Brian, je ne sais plus qui, sont mis à courir sur le...
sur le panier à salade.
Sur le panier à salade. Ah, viens ! Et les flics ont eu peur et sont partis. Et ils ont libéré les gauchistes. Et là, le lendemain, le mec est venu lui rendre l'argent qu'il lui devait.
Ah bah oui.
Alors, le truc qui courait, les bons gauchistes bien virils, c'est « Ah, les folles, elles ont des couilles au cul. »
C'est élégant.
C'est vraiment bien. Il était critique musical et c'est vrai que son enterrement c'était une horreur. Son père était militaire, donc on imagine l'ambiance familiale. Et il est enterré dans un cimetière militaire. Il y a eu une messe, mais j'ai jamais entendu aussi mal chanter. Dans une lettre. Seigneur, ayez pitié de nous. Et on se disait, heureusement qu'il n'est pas là. Heureusement qu'il n'entend pas. Qu'est-ce que... Jean-Michel Mandopoulos, rongé la moelle après l'os, le médecin le plus sérieux, son rire éteint frissonne aux cieux. Jean-Michel, c'est pareil, il était dans la bande des gazos. Il y a une image de lui en collant avec un imperméable, toi, en exhibitionniste, monté sur une piste attière en train de danser le French Cancan. Et c'était sorti dans un journal trotskiste, celui de Madame Lagillier, qui, comme on sait, n'est pas lesbienne, et qui disait, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la révolution prolétarienne.
Bah oui.
Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris ce que ça avait à voir avec la révolution prolétarienne. Qu'est-ce que je peux... Voilà, là on a fait, bon, bah, si j'ai un faune, Guy Ockenghem, que tu le détestes ou que tu l'aimes, c'était lancé aux amours phoques, a marqué, offert son époque. Voilà. Ah, c'est pour... Non, j'en dis... Non, il peut... Bon, voilà.
Que quoi ?
Je l'aime beaucoup.
Ah, ok.
Complet veston, eyeliner noir et le tarin de Barbara, Vanda Colson, grand ricanoir, coupait les certitudes à rats. Entrelaçant l'énigme calligraphe, on n'écrit que son épitaphe. Alors, Colson, qu'on avait baptisé Vanda à cause d'un film de Fellini, où il y a une pute qui s'appelle Vanda, je ne sais pas quoi, et qui vend de la cocaïne, il était très grand, il avait le nez de Barbara, il avait une espèce de grand tarin comme ça, il se mettait l'eyeliner noir, et c'était, il s'habillait genre en complet veston, avec le visage de Barbara. C'était vraiment quelque chose de très très étonnant. Il a fait quand même une des plus belles performances artistiques du phare, mais à l'époque on disait pas que c'était artistique. Une nuit de Noël, il a débarqué dans le métro avec un sapin et il a mis le feu à un sapin à l'intérieur d'un compartiment. Ça, je l'ai appris bien après. Et il était peintre, il faisait des calligraphies très étranges et il a même fait des fausses plaques archéologiques. Il faisait des espèces de plaques avec une écriture inconnue.
Il vendait aux touristes.
Et le but, c'était de l'enterrer sous un désert.
Pour voir.
Et qu'il y ait des archéologues qui tombent dessus et qu'il y en a un qui devienne fou en essayant de décrypter l'écriture.
C'est une belle écriture, ah oui.
Alors, ça c'est le truc du phare. On part très peu du côté artistique du phare. Il y a eu beaucoup de poètes, il y a eu des romanciers, il y a eu... Un copain, Jean-François Thor, qui est un bon peintre que j'aime beaucoup, m'a dit, mais c'était un mouvement artistique.
Ouais, plus que politique.
Presque.
Presque, oui.
Presque.
Parce que c'est pas l'image
Presque.
Qu'on en a.
Oui, c'est-à-dire que c'est les politiques qui écrivent l'histoire en général.
Oui, puis c'est les politiques les tentatives politiques de maintenant qui voudraient se servir de l'héritage des tentatives d'avant, quoi. Donc forcément, ils prennent ce qui peut leur servir.
Et moi, ça me manque beaucoup le côté artistique. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai pu rencontrer au phare comme gens qui avaient des discothèques incroyables, qui je sais pas quoi, qui faisaient des recherches sur la poésie du 18e. Mm-hmm. Mais tu sais, ça pouvait être tout. Ça pouvait être les revues porno américaines des années 50, la musique baroque, le rock. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gens avec des recherches artistiques.
Mais un vrai travail culturel.
Un vrai travail culturel, un vrai plaisir culturel. Bertrand Cordier, bel Algérois, cœur brûlant, humour à froid, en falbala de vieille dame, style, courage, audace, toute la gamme. Alors Bertrand, il était pied noir, mais quand sa famille a quitté l'Algérie, les ouvriers de l'usine ont appelé le bureau de son père, le bureau de l'usine du nom de son père. Mm-hmm. Donc il n'avait pas laissé que des mauvais souvenirs. Et j'ai l'impression que l'arrivée en France n'est pas bien passée pour Bertrand. Et quand même, c'était des « vous, les Français ». Imaginez-vous, les Français. Et il avait une histoire. Alors, il s'habillait toujours en vieille dame. Je n'arrivais pas à comprendre. Et un jour, il m'a dit qu'il avait une tante qui était vieille et il dormait avec elle. Et un matin, il s'est réveillé, elle était morte. D'où sa fixette sur
sur la vieille dame.
La vieille dame. C'était le grand ami de Robert, du petit Robert. Ils s'habillaient tous les deux en vieille dame. Ils s'habillaient tous les deux en vieille dame. Oui. Il faudrait que je parle un peu des copines.
Des copines.
Oui, elle fut câline, elle fut Sandrine, elle fut fidèle, elle fut mutine, parisienne mais très corse, elle a nargué jusqu'à l'atroce. Alors elle s'appelait câline ou Sandrine, elle était artiste au carrousel, mais de temps en temps elle aimait bien faire la ville, elle aimait bien faire la rue. Elle était très très belle, elle pouvait rentrer dans les endroits les plus chics, mais elle adorait les bouges. Elle aimait vraiment les bouges, où il y avait des voyous, et comme ça. Elle avait vraiment beaucoup d'humour. Je l'ai suivi jusqu'à la fin. Je vais dire au début de quand on parlait de sida, dire, oh moi le sida, je risque rien, je couche pas avec des PD. Voilà, elle est morte. C'est le voilà. Et puis l'histoire des gens discriminés qui aiment discriminer les autres, toujours la vieille histoire. Elle était la maîtresse du frère du chat, le prince Mourad. Ah. Et le prince Mourad aime beaucoup le cuir. Et elle avait découpé une pub qu'elle lui avait envoyée, c'était la pub Barat. Et la pub disait, si vous aimez le cuir, il faut bien l'entretenir. Elle était vraiment charmante, une bigote.
C'était une bigote ?
Oui, Sainte Thérèse. Elle était corse. Elle avait des origines corses. Ouais. Mais bigote de chez bigote, tu vois. Les petites statues de Sainte Thérèse, l'eau de Lourdes.
Ah oui.
Elle avait une très jolie poitrine. Elle avait son petit crucifix qui se promenait entre ses deux seins. Ouais. Et une fois, je lui dis, mais enfin, ton plaisir, c'est un blasphème comme ça. Tu fais promener ta croix entre des deux nichons. Elle a fait un bond de... Elle n'était pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'on peut raconter ?
On va arriver presque à la fin.
Eh bien, Lola et ses deux gros lolos au cabaret Lola Chanel a tiré son dernier gros lot, le repos, la prise sous son aile. Lola, elle avait des seins énormes, mais énormes. C'était les plus gros seins de
du phare.
Non, ça n'était pas au phare.
Pas au phare.
Ça, c'est plutôt la période Pigalle. Mmh. Après, c'est quand je. Tu sais, ça a été ma mise en usine, Pigalle.
Oui.
L'établi. C'était mon établi. Tiens, je vais t'en lâcher encore un. Mmh. C'est un garçon que j'ai rencontré bien après. La vie fut telle pour Saïd que son nom rime avec suicide. Amour, l'amour en fut la cause. Donné, refusé, doux, acide. Alors Saïd, c'est un garçon algérien que j'ai connu par Michel, qui avait été l'amant de Michel. Puis Michel, je crois, il aimait. Ça lui faisait peur qu'on l'aime. Et ils se sont séparés, mais du coup, je suis devenu l'ami de Saïd. Alors il était d'une famille kabyle d'Alger. Il parlait un français parfait. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit « Ah non, Hélène, je veux pas entendre ça de toi. » Je me suis dit « Merde, j'aurais fait fermer ma gueule. » Il était très beau, très, très fouteur de merde. Il adorait mettre la zizanie. Alors, il était à ACT UP pour avoir le droit de conserver l'appartement de son ami mort. Il était la première personne en France qui a obtenu le droit de conserver l'appartement de son ami mort. Il était séropo depuis très longtemps sans développer une quelconque chose. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il m'avait dit qu'un médecin lui avait fait faire des examens. Et il s'est rendu compte que les examens, c'était lui qui, c'était Saïd qui payait. Les examens, c'était juste parce que le médecin voulait avoir des trucs scientifiques. C'était pas du tout pour
étudier.
Et il lui faisait payer le truc. Et puis, il était parti s'installer en Hollande. Il avait appris le hollandais. Il m'avait raconté que dans une soirée entre hollandais, si tu veux foutre la merde, tu parles des accents. Mmh. Tu dis, ah tiens, t'as pas le même accent que l'autre. Et qu'au bout d'un quart d'heure, ils s'entretuent tous entre eux. Voilà, un bon tuyau.
Une recette.
Et il me dit, oh tiens, je veux t'inviter à dîner. Je vais au dîner, et là, au milieu du dîner, il me dit c'est une invitation pour mon enterrement après mon suicide. Je l'ai insulté de tous les noms. je l'ai traité de starlette des crématoriums. Ah non, on fait pas ça. On fait pas ça aux gens. On fait pas ça aux gens. Puis bon, bah, il avait vraiment très en, il avait vraiment très envie. Voilà.
On n'y peut pas grand chose.
Écoute, on a un petit peu.